Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais. Comme à son habitude, elle a posé le plat au centre de la table et comme à son habitude, ma mère a découpé des parts inégales dans ses lasagnes aux aubergines qu'elle prépare si bien. Une part, pour moi, sans fromage. À l'aide de sa fourchette, ma petite sœur a trié dans la sauce pour tenter d'enlever un morceau de tomate jugé trop gros. Quant à mon autre sœur, elle n'a pas partagé avec nous la tarte au citron servie en dessert. Entre une intolérance au lactose, une néophobie alimentaire et un problème digestif, chaque repas relevait de l'exercice d'équilibriste. Ce n'étaient pas des caprices alimentaires, mes parents n'étaient pas laxistes, non, on était plutôt du genre à filer droit. Ma mère a jonglé avec ses contraintes. En revanche, pas question de râler devant le menu du soir. C'était ça ou rien, à chacun de s'adapter à l'autre. C'était comme ça et c'était bien. Et ça continue, ma mère cuisine toujours plusieurs versions de ses lasagnes. En revanche, chez les amis, le plat unique disparaît peu à peu entre le copain vegan, celui qui ne peut pas manger de sucre ou celle qui évite le gluten. Concocter un repas devient un parcours d'obstacles. Alors on éparpille, par petits bouts façon puzzle nos plats. On joue la carte tapas pour satisfaire aux exigences de chacun et éviter les fâcheries pour un bout de gras mal placé. On loue encore les grandes tablées avec éclat de voix et fou rire, mais parfois, je me demande si notre repas à la française n'est pas une espèce en voie de disparition. Et vous ? Êtes-vous encore heureux à table ?
Eva Roque sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été comme jamais sur France Inter. Avec nos invités du jour, je vous invite à passer à table. Pouvons-nous encore être heureux ensemble pendant un repas ? Tentative de réponse avec Claude Fischler en duplex avec nous depuis Limoges. Bonjour Claude Fischler.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste de l'alimentation, auteur notamment de L'Omnivore et d'un ouvrage en totale adéquation avec le thème de cette émission, Les alimentations particulières, mangerons-nous encore ensemble demain ? Vos deux ouvrages sont publiés chez Odile Jacob. À mes côtés, Chantal Pelletier. Bonjour Chantal Pelletier.
Bonjour Eva.
Vous êtes romancière, scénariste. La nourriture est extrêmement présente dans toute votre œuvre, notamment dans votre dernier roman, Dernier Festin, édité chez Gallimard et qui a inspiré cette émission. Notre dernière invitée nous rejoindra dans quelques minutes. Nora Boisouni est journaliste, elle est auteure, féministe et passionnée de cuisine. Titre de son dernier ouvrage, Steakisme, aux éditions Nourriture Fut. Mais pour débuter cette conversation, petite question. Selon vous, quel est le plat idéal pour une grande tablée, alors en famille ou entre amis ? Claude Fischler.
Oula, un plat idéal pour une grande tablée. Bah écoutez, il y en a beaucoup. Les lasagnes aux aubergines, ça m'a bien plu.
Oui, je vous en ferai.
Ça peut être dans un contexte beaucoup plus traditionnel, déjeuner du dimanche classique. C'était jadis gigot, poulet rôti ou roast beef.
Et c'est encore des plats qu'on déguste effectivement en famille. Chantal Pelletier, le plat idéal pour une grande tablée.
Alors c'est forcément un plat de légumes gratiné sans fromage, parce qu'on peut très bien gratiner sans fromage, et tous les légumes de saison. Donc en ce moment, il ne manque pas, et on peut très bien se nourrir avec ça.
Si je vous pose la question, c'est parce que le repas devient effectivement une sorte de champ de bataille. Comment répondre aux exigences de chacun entre les végétariens, les sans gluten, les sans sucre, les sans lactose, sans parler des contraintes religieuses par exemple. Claude Fischler, vous qui étudiez l'alimentation depuis des années dans tous les pays, comment définissez-vous le repas à la française, qui est d'ailleurs inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2010 ?
C'est le repas gastronomique des Français qui est inscrit au patrimoine. Oui. Donc c'est peut-être un chef-d'œuvre en péril. Mais enfin, dans le repas familial à la française, il y a un élément qui m'a frappé dans l'introduction que vous avez faite, c'est que vous avez parlé du plat unique comme une sorte de base de départ du repas à la française. Or, il y a encore 10 ans ou 15 ans, le plat unique, c'était une forme très très moderne et une façon de désagréger d'une certaine façon le repas à la française, parce que ce qui a disparu dans ce que vous avez présenté, c'est les hors-d'œuvre.
Oui.
Il n'y a plus d'hors-d'œuvre ou d'entrée. Donc, le repas à la française, c'est quelque chose qui est en constante évolution, comme toutes les habitudes alimentaires, mais il reste un certain nombre de principes de base. Et le principe de base, celui qui est en train de balancer, de vaciller un petit peu, dans une partie quand même encore minoritaire, probablement de l'ensemble de la population, c'est le repas qu'on appelle en jargon diachronique, c'est-à-dire une séquence de plats qui se succèdent. Vous voyez ? Et alors, en face de ça, il y a le repas synchronique, c'est-à-dire oui. où on sert plusieurs choses ou tout à la fois en même temps sur la table. On répartit les choses spatialement plutôt que dans le temps. Alors, toute la Méditerranée, évidemment, connaît ce genre de repas. Vous avez parlé des tapas, c'est pas forcément la Méditerranée, mais l'Espagne.
Oui.
Vous avez les mésés dans le Moyen-Orient, Liban, etc. Toute la Grèce et la Turquie fonctionnent comme ça. Et nous, on avait inventé, il y a déjà pas mal de temps, quelque chose qui s'apparente un peu à ça, qui est l'apéritif dînatoire.
Qui existe toujours, qu'on continue à pratiquer,
qui se développe
évidemment,
de plus en plus, qui se développe de plus en plus,
mais
est complètement entre guillemets synchronique, pardon pour le
voilà.
jargon.
Et justement pour essayer de répondre aux attentes de tout le monde, Chantal Pelletier, est-ce que le repas est encore un moment convivial à vos yeux?
Oui, bien sûr, et heureusement. Mais pour moi, le repas, c'est quand même encore et toujours un menu.
Oui.
C'est-à-dire
entrée, plat, dessert.
Et parce que ça met en jeu l'équilibre diététique et alimentaire en général. Et pour moi, c'est important qu'il y ait effectivement des séquences différentes. Sauf si on est dans le cadre d'un buffet où on ne se met pas à table. Pour moi, quand on se met à table, c'est autour d'un menu. Et quand on ne se met pas à table, c'est un buffet. Et donc, à ce moment-là, on est dans les tapas ou les mésés dont parlait Claude. Oui.
Et ce menu, c'est aussi un moyen de rythmer la vie de ce repas, de rythmer les conversations pour vous ?
De rythmer les conversations et puis de nourrir convenablement aussi, parce que quand même dans l'idée du repas, enfin pour moi ce qui est important c'est ce rapport entre celui qui nourrit et celui qui est nourri, qui est quelque chose de tellement primordial, puisque c'est notre relation à l'autre a commencé en mangeant. C'est notre tout, c'est vraiment la toute, tous autant que nous sommes, nous avons été nourrissons, c'est-à-dire nous avons été nourris, nous avons goûté au monde en étant tenus en contact dans les cinq sens, en écoutant la voix qui nous nourrissait, en apprenant à distinguer les formes, etc. Et je pense que il y a toujours l'idée du nourrisson nourri, et c'est pour ça que tout, ensuite, dans nos histoires individuelles, s'empile sur cette séquence primordiale et avec effectivement nos caractéristiques, nos opinions, nos individualités, et c'est parfois difficile de les mettre ensemble.
On va y revenir dans quelques instants sur les disputes à table. Je vous propose d'écouter un extrait du dernier épisode de la série Fais pas ci, fais pas ça. Il a été diffusé en fin d'année 2020 sur France 2. Imaginez deux mères de famille qui font les courses ensemble en vue de la préparation du repas de Noël.
Bon, alors évidemment, règle numéro un, que du bio. Hein. Vous savez, on n'a rien contre le bio chez les Lepic, hein, du moment que ça reste gras.
Ouais. Alors, Tiffaine, comme vous le savez, est allergique au gluten, donc rien à base de gluten. Denis, lui, il est devenu vegan. Vous savez ce que ça veut dire, vegan?
Pas de viande, oui.
Oui, ni rien qui provient d'un animal. Lait, œufs, fromage, tout ça, ça marche pas.
Hein. Ah.
Bon, et moi je suis flexitarienne.
Flexita quoi ?
Flexitarienne, c'est-à-dire que je suis végétarienne,
ouais.
Mais je peux aussi manger de la viande ou du poisson.
Vous êtes normal, quoi.
Bon, alors moi je pense que le plus simple, bien encore, c'est qu'on prépare un menu de réveillon par personne.
Stop ! Vous êtes complètement dingue. Vous êtes dingue, les bobos, quoi. Avec vos allergies, vos flexica machin, c'est pas possible.
Chantal Pelletier, la situation est assez bien résumée, non, à travers cet extrait.
Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est le reflet de notre époque. C'est-à-dire, on est dans une époque très individualiste où chacun veut afficher, enfin, tient à afficher ses caractéristiques, ses plaisirs, ses déplaisirs, sans penser forcément à ce qui est de l'ordre du commun.
Oui,
donc,
d'ailleurs, oui, Claude Fischler, est-ce que ces régimes alimentaires qui nous différencient, d'abord sont de plus en plus nombreux au fil du temps, ou on a cette faculté à verbaliser peut-être plus facilement le fait de dire je ne veux pas ou je ne peux pas manger cela?
Écoutez, d'abord c'est pas aussi massif que ça encore, hein, c'est beaucoup plus minoritaire en France que dans beaucoup de pays voisins ou de niveaux de développement équivalents. Par exemple aux États-Unis, ça s'est accéléré depuis quelques années. Ça frappe beaucoup parce que ça remet en cause quelque chose de fondamental, qui est ce que le fait d'être ensemble à table, la commensalité, hein, comme mensa, la table ensemble, la commensalité, c'est quelque chose qui est caractéristique de la façon française de se nourrir, qui est caractéristique des pays du sud de l'Europe de tradition catholique, les pays qu'on dit latins, l'Italie, l'Espagne, la France, mais c'est particulièrement marqué en France. Et dans nos enquêtes où on compare le rapport à l'alimentation de pays différents, on a vu depuis au moins 20 ans, et ça se maintient quand même clairement, et puis ça a des racines historiques très très anciennes et très profondes, qu'en France, si on a un peu plus de mal qu'ailleurs jusqu'à présent, justement à se différencier, à revendiquer une sorte d'autonomie totale du choix alimentaire, c'est parce que fondamentalement, pour nous, le repas, c'est une espèce de communion. C'est-à-dire qu'il y a en transparent, comme ça, en invisible derrière, il y a presque l'idée de l'Eucharistie. C'est-à-dire que si vous ne participez pas, et participer, je vous rappelle que l'étymologie de participer, c'est par scapere, prendre sa part au repas, n'est-ce pas? Donc, le fait de participer implique que vous partagez littéralement le plat qui est proposé à tout le monde. Si vous ne le faites pas, d'une certaine manière, vous vous excommuniez. Vous interrogez les Français. Alors ça change par génération, par catégorie sociale, mais beaucoup par génération. Mais en fait, au fond, il y a cette idée, vous vous excommuniez d'une certaine manière si vous mangez pas comme tout le monde. Donc quand vous mangez, vous avez en tête beaucoup les autres. Si vous allez aux États-Unis, quand on a interviewé des tas de gens...
Oui, vous avez fait une étude comparative,
Oui, alors vous trouvez que c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans les universités aux États-Unis. On vous dit, il faut qu'on déjeune ensemble pour parler de tel sujet. Bon, très bien. Alors d'abord, on discute le choix du restaurant, de ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas. Alors, il y en a un qui veut chinois, mais il mange pas de porc. L'autre qui veut du... etc. Bon, on se met d'accord, on va au restaurant, on commande... on discute de la question, on passe 20 minutes, merci, au revoir, et c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu une négociation, et il y a eu une sorte de relation contractuelle, c'est l'accord de deux volontés individuelles, libres, indépendantes, c'est l'éthique protestante, si vous voulez, versus la tradition catholique. Et on est quand même profondément marqué par ça. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'autonomie individuelle étant constamment... En accentuation, en augmentation, dans tous les domaines, et de plus en plus dans l'alimentation, les individus se manifestent de plus en plus leur volonté. Et d'une certaine manière, cette affaire de contrat versus la communion, ça progresse un peu chez nous aussi. Et donc, on tient de plus en plus compte, il faut négocier, et le repas va devenir, ou tente à devenir, dans certains cas, une négociation de plus en plus.
Je vous propose, Claude Fichard, de partir à La Réunion pour voir s'il y a une négociation chez Silvio, qui nous a appelé. Bonjour Silvio.
Bonjour.
Vous êtes bien à La Réunion, et il paraît que vous êtes en train de faire la cuisine, c'est exact ?
Oui, c'est tout à fait exact.
Pourquoi vous avez eu envie de nous appeler ce matin ?
Alors, j'ai eu envie de vous appeler parce que sur l'île de La Réunion, on a beaucoup de communautés religieuses et culturelles différentes. On a une population qu'on appelle ici les Arabes avec un Z, qui sont musulmans de La Réunion et qui, en général, ne mangent pas de porc. Il y a aussi les Hindous... Malbar qui mange pas d'œuf. Il y a aussi une population qui développe de plus en plus la nourriture végétarienne ou végane, et sans compter aussi les personnes qui peuvent être allergiques aux poissons ou ce genre de choses. Et il est vrai que j'ai beaucoup d'amis de ces différentes communautés, et c'est assez compliqué de faire un repas avec tout le monde. Puisqu'il faut un petit peu tenir compte de chaque restriction. Donc il est assez court. Je voulais vous appeler pour ça parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois, justement, d'inviter des gens qui avaient des restrictions et de donc devoir cuisiner des choses différentes. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de cuisiner quand il y a quelqu'un qui mange pas de bœuf, quelqu'un qui mange pas de porc ou quelqu'un qui est végétarien.
Et Silvio, pardon, faites-nous... Allez-y, je vous en prie.
En revanche, c'est un vrai plaisir. Moi, j'adore cuisiner, et c'est un vrai plaisir, justement, de se contraindre à accepter les restrictions des autres, puisque ça fait découvrir des nouvelles recettes. Et puis, au final, tout le monde peut partager un repas, même si les gens ne mangent pas la même chose. Et surtout, c'est, ça, oui, ça permet de découvrir des nouvelles recettes. Et au-delà de ça, c'est un moment de partage où, justement, malgré ces restrictions, les gens se retrouvent. Et à chaque fois, j'ai eu comment dire des très bons retours sur le fait que on peut s'arranger. Alors, il peut y avoir des couacs.
Ça arrive par exemple, tout le temps, bien sûr.
On peut pas faire le barbecue du bœuf sur la même grille que celle du porc, pour certains. Donc voilà, ça, il peut y avoir des couacs, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Et au niveau des cantines scolaires, par exemple, sur l'île, il y a vraiment cette chose-là qui est respectée, et je trouve ça formidable dans le sens où on a toujours un repas végétarien ou une possibilité d'avoir une annexe si on mange pas de porc, si on mange pas de bœuf.
On va y revenir justement sur les repas en collectivité. Merci infiniment de nous avoir appelé depuis La Réunion, Silvio. Merci. Et puis comme Silvio, si vous avez envie justement de nous raconter si vous êtes encore adepte des longs repas, comment vous concoctez tous ces moments, vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer un mail et même une note vocale. C'est via l'application France Inter. Il suffit de cliquer sur le bouton réagir sur la page de l'émission L'été comme jamais.
Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais-le plus fort que je le fais. À tes yeux des aimants, n'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, évidemment. Identique, c'est la photocopie. On ne peut compter que sur mon doigt. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois.
Sur France Inter avec Emma Thom.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
Nous allons éviter les hématomes ce matin dans l'été comme jamais, mais il faut reconnaître que le repas en famille ou entre amis, notre sujet du jour, est souvent synonyme de vives discussions à table, voire d'engueulades, et le cinéma regorge de scènes du genre. Florilège, grâce au mix concocté par notre réalisatrice Juliette Medevielle, au menu Que la bête meure, Vincent, François, Paul et les autres, Coup de tête, Juste à la fin du monde, Deux jours à tuer et Cuisine et dépendance.
Ah, eh ben ce ragoût est tout simplement dégueulasse. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part dans une casserole. À part dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit?
Non, mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps.
Bah, écoute, François. Avec...
Ta gueule, toi! Je vous emmerde tous un coup de dimanche, petit goût à la con! Merde!
Tu n'es pas dans ton assiette, je le comprends très bien, mais je ne suis pas responsable, moi. Alors domine-toi, s'il te plaît. Ressure-toi un peu.
J'avais envie de voir personne, moi.
On n'allait pas te laisser tout seul. Tu crois qu'on n'aurait pas préféré, nous, aller au restaurant comme c'était prévu?
Bon, moi, maintenant, je voudrais lever mon verre aux 35 ans de yo-yo, si ça vous dérange pas.
Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée.
Pourquoi tu veux toujours humilier tout le monde? Merde, fais chier, putain!
J'ai pas un ami autour de cette table. Et puis c'est là que je me rends compte que j'ai rien de commun avec tous ces cons. Ça se passe bien, on dirait. Hein? Hein, ça prend bien.
Qu'est-ce qui prend bien?
Non, rien, la soirée, là, je trouvais qu'elle... Non, qu'elle prenait bien.
Mais oui, ça se passe bien parce que je précise que malgré les engueulades à table, les Français passent 2h13 par jour devant une assiette et c'est un record dans les pays de l'OCDE. Avec nous en ligne, Nora Boisouni. Bonjour Nora. Est-ce que vous nous entendez, Nora?
Oui, très bien.
Bonjour, vous avez consacré notamment un épisode du podcast Plan Culinaire au repas de famille. Pourquoi le repas cristallise autant nos passions, Nora? Est-ce que vous en avez une idée?
Eh ben, effectivement, ça cristallise les passions et les tensions aussi, parce que c'est quand même un lieu fermé. Alors, on peut se sentir un peu prisonnier ou prisonnière de certains repas de famille parce qu'on n'a pas très envie d'être là. Il y a toujours quelques personnes à qui on n'a pas très envie de parler. Donc, le repas, ça peut être un moment d'appréhension, en fait. Il y a beaucoup de gens, notamment pendant les fêtes de fin d'année, qui redoutent, qui ont des grosses crises d'angoisse, d'anxiété, en sachant qu'ils vont aller passer quelques jours en famille, surtout quand c'est la famille étendue, avec le tonton raciste, la tata miso, enfin bon bref, on s'attend toujours à ce que le pire se passe, à devoir ne rien dire, à devoir s'empêcher
pour pas créer, ouais, bien sûr, ouais.
Concilier tout le monde, pas créer d'embrouille, parce qu'après on a aussi des rôles qui se jouent à table, alors on va nous dire, ah ben de toute façon, toi t'as toujours été chiante, toi t'as toujours été comme ci, comme ça, donc c'est un moment qui peut être un moment très angoissant.
Chantal Pelletier, vous dites souvent une chose que j'aime beaucoup, parler et se nourrir, c'est le même royaume, c'est celui de la bouche.
Oui, bien sûr. Et malgré toutes ces engueulades dont on a entendu un florilège et ce que précise Nora, je pense que l'intérêt, c'est que c'est vivant.
Oui.
Et donc, ça, c'est très important. Et les engueulades, ben, il faut qu'il y en ait. Il faut que les gens se frottent les uns aux autres. Et vous savez, soit on mange à table, soit on mange au frigo. Et manger au frigo, vous savez, c'est cette image qu'on a vue dans tellement de séries ou américaines où une personne rentre, jeune, vieille, moyenne, peu importe, va au frigo, prend quelque chose, oui. L'embouche et puis s'avachit sur un canapé devant un écran. Et ça, c'est vraiment le contraire. Effectivement, personne ne s'engueule avec personne, mais il y a quelque chose quand même de pathétique et de tout à fait mort et qui n'est plus vivant. Et ce que je trouve de très très important à une table, c'est que c'est vivant et que c'est vraiment la relation à l'autre. Et normalement, il y a quand même quelqu'un, soit un restaurateur, soit un cuisinier, une cuisinière, en tout cas un nourricier qui s'est occupé de faire en sorte que vous soyez quand même bien et donc disons que c'est une chance. Il faut pas penser qu'au mauvais côté des choses.
Vous venez parler du mot frigo. Il y a beaucoup d'expressions qui sont liées justement à notre rapport à l'alimentation et dans les expressions culinaires. J'en avais sélectionné quelques-unes comme mettre carte sur table, mettre les pieds dans le plat, casser du sucre sur le dos. Qu'est-ce que disent ces expressions et ces mots par rapport justement à notre rapport à l'alimentation ?
Parce que c'est la chose la plus importante de notre vie, puisque dans le meilleur des cas, on mange 3 fois par jour, d'une façon ou d'une autre, seul, en compagnie, etc. Et que c'est lié à tellement de souvenirs, tellement de mémoires, tellement de culture, tellement de transmissions. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que parfois, sur la table, il y a un plat qui parle d'un ancêtre, d'un aïeul qu'on n'a jamais connu, mais qui a laissé cette trace-là. Et c'est très important. Quand on parle de culture, de patrimoine, de l'humanité, c'est aussi de ça qu'on parle, c'est-à-dire ces choses qui sont inconscientes et qui sont sur la table et qu'on met sur la table. Et puis, il faut aussi parler du plaisir de mettre les pieds sur la table. oui. sous la table.
Sous la table.
Mais sur et la... pas sur la table. Et ça, c'est vraiment bien. Quand on a été privé de restaurant, par exemple, il faut voir à quel point c'était important. Des gens qui se disaient, mais j'en ai marre de faire la cuisine, j'ai tellement envie de me mettre les pieds sous la table.
Alors, Nora Boisouni, vous avez choisi, vous, de mettre les pieds dans le plat avec votre dernier livre, Steakisme, avec cette question, depuis quand la nourriture a-t-elle un genre? Et vous démontrez qu'il y a des aliments dits féminins, d'autres masculins. À quel moment vous avez choisi de vous intéresser à ce sujet en particulier? Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture du livre?
Ce qui a déclenché l'écriture de Steakisme, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Féminisme aux éditions Nourriture Fu sur le sexisme dans la chaîne alimentaire, on va dire, hein, de l'agriculture au restaurant gastronomique en passant par la cuisine du quotidien. Et puis dans ce premier livre, je mettais plutôt en valeur les systèmes et pas les représentations. Et en fait, moi je suis vraiment une enfant de la télé. J'adore la télé, j'ai toujours eu la télé. Quand on mangeait chez moi avec mes parents, le dîner était devant la télé. Ça ne nous empêchait pas du tout d'échanger et de parler, mais la télé était encore un autre hôte, le cinquième hôte de la table. Et je me suis rendu compte très rapidement que les femmes et les hommes ne mangeaient pas de la même manière dans les publicités, dans les films, dans les séries, et qu'on ne traitait pas les aliments de la même manière. Disons qu'il n'y a pas d'aliment neutre culturellement, évidemment. Hein, un aliment n'est pas genré en soi, naturellement, mais culturellement, par exemple, quand on parle de la viande, eh bien, on va se dire la viande est plutôt un aliment masculin. Quand on parle des yaourts, la goyave, on va se dire c'est un aliment
plutôt féminin. Pour les femmes, oui.
Donc moi je m'étais dit, bon, d'où ça vient? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces clichés qu'on peut avoir sont réels? Alors comment on vérifie ça? On regarde déjà dans les études alimentaires, donc l'étude 1-4-3, l'étude nationale de consommation alimentaire en France, qui est menée sur un énorme panel de Français et Françaises, et on remarque qu'effectivement ces clichés se retrouvent dans les pratiques alimentaires. Donc oui, les hommes mangent plus de viande rouge que les femmes et boivent plus d'alcool. Les femmes mangent plus de soupe et de yaourt et de compote que les hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles aiment davantage ces aliments-là. Et c'est ça tout le sujet de mon livre, c'est pourquoi est-ce que les femmes mangent plus de yaourt que les hommes pour schématiser, et les hommes plus de viande que les femmes.
Alors on a reçu beaucoup de messages de nos auditeurs, je voulais vous en lire quelques-uns. Céline par exemple, elle nous dit, dans notre famille, deux sont allergiques au gluten et au lactose, et un autre est pescétarien, mange du poisson mais pas de viande, pescétarien. Les repas de famille se font régulièrement et sans grand problème, car nous avons plaisir à nous retrouver, nos différences, nous avons appris à les intégrer pour satisfaire tout le monde. On sent qu'il y a quand même une forme de tolérance à l'égard de toutes les exigences alimentaires de chacun. Claire nous dit, le moment du repas est si important. Avec des vies à 100 à l'heure et les smartphones, on passe si peu de temps ensemble à réellement communiquer et partager la même chose au même moment. Le repas, pour moi, est un moment de partage en famille ou entre amis. Et c'est le moment pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Claude Fischler, est-ce qu'il y a des études récentes qui tendraient à montrer qu'il y a des changements profonds dans nos habitudes alimentaires ?
Oh ben, les changements, ça, y a pas besoin d'études pour le voir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que nous disons là, c'est quand même, sauf le point de la nourriture genrée, c'est quand même très franco-français, parce que l'idée de convivialité, par exemple. Bon, nous on parle techniquement, ça s'appelle la commensalité. Qu'est-ce qui se passe autour d'une table ou autour d'un repas quand il n'y a pas de table? Il y a des tas de sociétés où on mange sans table. L'idée de convivialité qui sort aujourd'hui, elle est très différente de ce qui sortait il y a 40 ans. Par exemple, dans la génération, je sais pas, qui a grandi dans les années 60 ou 70, on parlait pas à table. Les enfants ne parlaient que quand on leur donnait la parole.
Et on sortait pas de table.
La question de manifester des aversions ou des préférences, si tu n'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres. Il fallait jamais parler de ces aversions. Il fallait non seulement manger de tout, mais manger tout. Tout ce qu'on avait dans l'assiette. Aujourd'hui, vous passez la question suivante, vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes, etc. Celle qui recueille le plus d'agréments, un enfant bien élevé doit goûter de tout. Donc goûter de tout, c'est pas tout manger, c'est goûter de tout. Et c'est ça en France. C'est pas du tout le même résultat que vous obtenez aux États-Unis. On est encore beaucoup plus souple aux États-Unis, où les avis se partagent. C'est peut-être trop demandé. Bon, l'idée qu'on communique à table, je pose la question au Japon, on parle pas à table, on est éduqué à ne pas parler à table. Il y a des tas de circonstances dans la vie quotidienne, dans la restauration, dans les cantines ou ailleurs, où il y a des places cloisonnées pour manger, pour être tranquille, pour pas être gêné. Donc il y, a des relations au manger à la table qui sont extrêmement variables ethniquement. Et tout à l'heure, l'auditeur de la réunion, Sylvio, il nous parlait de quelque chose qui est différent de ce dont nous parlons finalement d'une certaine manière, au moins en partie. C'est-à-dire qu'il y a comment faire manger ensemble les membres de groupes ethniques ou religieux différents.
Différents, bien sûr.
Bon, c'est pas la même chose que de manifester une volonté individuelle, une préférence ou une aversion, parce que eux, chacun, s'ils appliquent ces règles, c'est qu'à l'intérieur de leur groupe, quand ils mangent ensemble, eh ben tout le monde les applique.
La question ne se pose pas, effectivement. Alors, ouais. On parlait de réunion de famille un peu tendue, une chanson en 2007 résumait parfaitement la situation.
Hey, le rappeur de la famille, il nous ferait-il pas un petit rap ?
Non.
Allez, une chanson. Ok.
Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec pourrait préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents, je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron. Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion, me regardait porter des cartons en tripotant ma frangine toutes les 3 secondes. Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms. Parce que tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton. Tonton, si tu continues de faire yo-yo avec les doigts, chaque fois que tu passes à côté de moi, tu les utiliseras pour la dernière fois. Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit et tu m'as secoué comme une pute. Si tu tenais à tes rétros, pourquoi tu t'es garé derrière le but? En parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno. Si Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point son prochain raco. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. Je sais pas. Message à tous mes lointains cousins, venez on arrête de faire copain-copain. Parce qu'un ancêtre, on sait pas qui c'est, est la seule chose qu'on a en commun. Un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages et piller des baraques, à peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc. D'ailleurs papy, raconte-nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler. T'as jamais été un héros, t'étais même pas un bon mytho. Mon héros c'était toi Nico. Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre colle un peu bonne, t'es juste un vrai beauf comme les autres. Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo pour alimenter tes réseaux sociaux. Profiter d'être avec quelques prolos pour pouvoir encore plus jouer les bobos. Polo, si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués, en utilisant beaucoup trop wesh pour un blondinet. Vu que ton père a un problème avec les Arabes, c'est une très belle ironie. Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme. J'espère que Tati va bien attacher les mots, parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome. J'avais plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos gueules d'enculés bouffis, j'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine.
Des fêtes de famille par Aurel San, un titre de 2017. Et vous êtes bien sur France Inter pour la suite de l'été comme jamais, où on ausculte notre repas de famille. Je voulais vous faire écouter un message qu'on a reçu d'un auditeur. Il s'appelle Thomas et il est cuisinier.
Je fais tous les midis un seul menu dans mon restaurant. Il y a une entrée, un plat, un dessert. Il n'y a pas de choix quand on arrive chez moi. C'est moi qui ai choisi ce que mes clients vont manger. On pose les plats au milieu de la table, tout le monde partage. En général, les clients sont très surpris, puis à la fin du repas, très contents et satisfaits d'avoir pu partager ce repas ensemble et d'avoir le même repas que toutes les autres tables. C'est un grand moment d'échange, de partage et de convivialité.
Merci beaucoup Thomas, c'est ce que vous disiez Chantal Pelletier en ce début d'émission, il faut aussi rythmer ce moment du repas avec une entrée, un plat et dessert. Vous qui aimez les aliments, chaque ingrédient, chaque épice passionnément, vous avez choisi de traiter le sujet de la nourriture sous l'angle du polar dans votre dernier roman, Nos derniers festins, c'est publié chez Gallimard. Est-ce que je peux vous laisser nous raconter l'histoire? On est en 2044 et qu'est-ce qui se passe? Quel est notre rapport à la nourriture?
Bien, il y a une prohibition alimentaire qui a interdit certains aliments comme les fromages au lait cru, les foie gras, etc. Et d'autre part, les individus sont surveillés grâce à la connexion entre leur carte vitale, disons, et leur bilan sanguin et un permis de table à points qui fonctionne comme le permis de conduire à points. Et en fonction des points de ce permis de table, on peut manger certaines choses et pas d'autres. Et donc, on est contrôlé dans les restaurants, chez les traiteurs, etc. Et on peut perdre beaucoup parce qu'on peut perdre le droit aux prestations sociales. Par exemple, même les fumeurs peuvent s'ils sont vraiment fumeurs avétérés, perdre leur droit aux prestations sociales, donc ils peuvent en mourir. Hein. Une des héroïnes a perdu ainsi son épouse d'une péritonite parce qu'elle n'a pas été prise à l'hôpital. Donc c'est à la fois une blague et à la fois c'est quand même noir, mais effectivement l'idée de mettre en place une dictature alimentaire en fait ça permet effectivement de chercher les transgressions, donc les trafics, donc effectivement j'ai inventé des dealers de foie gras, des mafias du camembert, des agapes interdites qui sont organisées par des sociétés secrètes dans les sous-bois où on célèbre le beurre qui effectivement est l'ennemi juré est l'ami du cholestérol et donc l'ennemi juré de la sécurité sociale, etc.
Et donc tout débute aussi avec quand même un meurtre, il faut le dire. On retrouve un homme dans quelle situation?
En fait, il a été poussé dans sa grande marmite de blanquette. Alors évidemment, la blanquette, c'est le monde d'avant, c'est le monde de Maigret, avec les plats qui cuisent longtemps, qui parfument toute la maison, qui seront au centre de la table après une entrée et avant un dessert. Et donc voilà, c'était faire disparaître un cuisinier dans ce monde à l'ancienne pour essayer d'explorer ce monde du futur qui est en fait une société de contrôle tout simplement.
Mais est-ce que vous vous souvenez quel a été l'élément déclencheur pour écrire ce récit? Il y a quelque chose dans la société qui a fait un déclic?
Non, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, notamment en éditant 13 livres d'une collection qui s'appelait Exquis d'écrivains, où je demandais à des auteurs de partager leurs expériences autour de la nourriture. Je me suis rendu compte de tous les champs qui étaient possibles d'explorer, et donc dans le polar chercher la transgression, donc j'ai inventé effectivement des crimes alimentaires comme d'en tirer sur le caviste ou un homme tue sa femme parce qu'elle a raté un céleri rémoulade, et donc essayer de mêler l'humour, la noirceur et la gourmandise. Et surtout quand on crée des interdits, eh bien on stimule l'imaginaire, et donc évoquer la nourriture était d'autant plus important et d'autant plus goûteux parce qu'on en était privé.
Nora Boisouni, vous vouliez réagir? Je vous ai entendu, j'ai entendu votre voix.
Oui, je voulais réagir, c'est Chantal, parce que ça me semble très intéressant aussi de voir un peu dans ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, donc la SF, la fantasy, comment on traite les repas et la nourriture. Et ce qu'on voit souvent, c'est quand même le motif d'une nourriture qui serait moins conviviale et gourmande que fonctionnelle. Et c'est vrai que dans pas mal de romans, dans des films ou des séries de science-fiction, la nourriture est assez peu traitée, ou bien traitée, effectivement, comme dit Chantal, sous l'ordre d'une espèce de dictature, ou bien purement sur l'ordre fonctionnel. Donc vraiment, on va manger des cachets, on va avaler des gélules, comme aujourd'hui, il y a certaines marques qui proposent des repas en bouteille. Donc il suffit c'est une poudre avec tous les nutriments nécessaires à la journée, et puis au corps, et on met juste de l'eau et on mange. Et c'est vrai que cet acte de manger, en parlant de commensalité, comme le disait Claude Fischler, donc le fait de partager à table un repas, ou pas forcément à table, mais en tout cas de le partager, il y a ça qui se joue là-dedans, c'est qu'on n'est pas là juste pour se nourrir, quoi. Et je trouve ça intéressant de voir un peu comment on imagine souvent le futur, qui est un truc un peu morne et terne, où en fait chacun avale ses gélules de son côté, et la nourriture perd justement tout aspect gourmand et de partage.
Chantal ?
Et en fait, moi j'ai deux contrôleurs alimentaires qui sont justement dans les deux situations, c'est-à-dire un qui a une sorte sorte de nourriture de cosmonaute, qui mange une nourriture complètement préparée, complètement diététique et complètement morale pour la planète, pour les animaux, etc. Et puis, au contraire, une femme ancrée dans un terroir de gourmandise qui mange à pleine main et d'une façon très animale et très sensuelle. Et donc, c'était vraiment ces deux aspects qui m'intéressaient aussi, bien sûr.
Claude Fischler, vous y croyez, vous, à l'alimentation de demain qui passerait par une petite gélule qu'on avalerait comme ça, avec une gorgée d'eau?
C'est très intéressant parce que c'est un mythe. Par exemple, dans les années 80, il y avait beaucoup ça, le mythe de la pilule alimentaire. En effet, les soi-disant nourritures d'astronautes ou de cosmonautes. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que dans les situations extrêmes, l'alimentation c'était vraiment très très important, et on s'est mis à demander aux chefs, ou plutôt les grands chefs ont pris l'initiative de proposer des petits plats très très soignés et très savoureux, oui, pour ces situations extrêmes, y compris pour les situations astronautiques. Et puis il y a toutes ces histoires de rations militaires où les échanges se faisaient, je crois que c'était au moment de la guerre du Golfe ou en Afghanistan, où une ration française avait une réputation, disait-on, je ne sais pas si c'est un mythe, mais enfin on a entendu cette histoire très souvent, telle que on échangeait une ration française contre deux ou trois rations américaines ou quelque chose comme ça. Et puis quand vous regardez ce qu'a dit
Nora,
je sais plus si c'est Chantal ou Nora, je crois, très 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 juste. Vous savez, c'est le paradoxe, c'est que maintenant c'est dans le mainstream, la voie moyenne commune de l'alimentation quotidienne, qu'on voit apparaître ces super nutriments concentrés, finalement. Parce que ça commence avec un type en Californie qui lance un produit, il est gonflé, ça s'appelle Soylent. Or, Soylent, c'est le titre, ça fait allusion au titre d'une dystopie, d'un film dystopique des années 70, oui, qui s'appelle Soylent Green en anglais. Et soleil vert en français, et on distribue à une population new-yorkaise qui a explosé des tablettes mystérieuses, Soylent Green, et on apprend à la fin du film que le Soylent Green, c'est en fait préparé à partir de la chair des morts, n'est-ce pas? Donc le type qui lance en Californie dans les années 2019 comme marque un produit hyper nutritif qui est censé remplacer l'alimentation quotidienne, et à qui on demande, mais est-ce que ça vous manque pas un petit peu de temps en temps une bonne bouffe entre copains? Et vous savez ce qu'il répond? La formule est géniale. Il dit « I have nothing against recreational food eating. Je n'ai rien contre le manger récréatif. »
Oh là là, quelle horreur. Et je suis en train de repenser à la description que vous avez faite de ce film. Ça me donne pas très très envie de manger. Enfin, j'avais très faim jusqu'à présent en parlant des repas, mais là vous m'avez un peu coupé l'appétit, Claude Fischler.
Désolé, mais on parle de dystopie.
Mais vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Je voulais vous lire deux messages de deux auditeurs. Romain, il nous dit: dans notre famille, ils sont deux parents, trois enfants de 9, 11 et 12 ans, où il y a aussi des difficultés à rendre tout le monde heureux. Ils ont inventé la salade décomposée. On découpe tous les ingrédients qu'on dispose dans des petites bols sur la table, et chacun recompose sa salade dans son assiette, et ça rend le repas très convivial. C'est une des solutions, parce que ça pousse à la créativité, finalement, toutes nos exigences alimentaires. Et Guillaume, qui nous dit: ma femme est asiatique, mon fils allergique à de nombreux aliments, et nos repas sont un melting pot joyeux fait de contraintes qui ne sont pas vues comme telles. Deux fourchettes, deux baguettes, deux moutardes de Dijon et deux sauces d'huître. La tradition des enfants ne sera pas celle de mes grands-parents, et c'est très bien ainsi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de transmission. Nora Boisouni, vous décrivez par exemple dans votre livre l'importance des automatismes acquis pendant l'enfance, et vous donnez un exemple comme un éclair à la vanille qu'on donnerait à un enfant en guise de récompense pour une bonne note. Forcément, ça a des chances de nous conditionner quant à notre rapport au fameux éclair à la vanille.
Oui, en fait, contrairement à ce que encore plein de gens croient, on n'a pas de goût inné. Alors c'est vrai que on sait que le goût amer, par exemple, est rejeté par les nourrissons d'emblée, et que le goût sucré va être plus apprécié. Mais par exemple, si la personne qui vous a porté pendant 9 mois a mangé beaucoup de d'anis, donc si vous avez grandi dans l'est de la France, par exemple, ou dans le sud, l'anis est plus présent dans notre région française, vous aurez plus d'appétit quand vous êtes né pour l'anis. Mais les goûts, en fait, ils explosent, et ils arrivent à partir de la naissance. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une maman qui a mangé de l'anis pendant la grossesse, Bon, si après elle en mange plus, ça veut pas dire que vous serez un adulte qui va adorer l'anis.
Oui.
Donc déjà, il y a ça, les goûts sont pas du tout innés, les goûts sont acquis, c'est culturel. Et effectivement, la transmission parentale est très importante, tout se joue très rapidement. En termes de découvertes, tout à l'heure on parlait, manger de tout, goûter à tout, en termes de transmission alimentaire, de goût, mais aussi penser à tout ce qui se joue autour, comme vous le disiez, d'une récompense ou d'une punition. Il ne faut pas que la nourriture devienne une récompense ou une punition, parce que ça peut faire développer chez les enfants et les ados ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, avoir un rapport conflictuel ou névrotique à la nourriture, et voir comme ça développer des motifs récurrents de, par exemple, ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, donc quand on est très triste ou quand on est très joyeuse, hein. Se jeter, comme on dit, sur la nourriture, se venger, comme on dit aussi sur la nourriture. J'aime bien ces expressions-là, se venger sur la nourriture. On essaie de remplir un manque ou de remplir quelque chose. Donc, il faut faire aussi très attention à, quand un enfant a une bonne note, ne pas récompenser systématiquement la bonne note par des gâteaux, par un croissant à la boulangerie ou par une blanquette de veau, quoi.
Everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every motto. You might be next if you try to cut mama's cake.
What the deal, Daddy?
And ask her what the deal is.
This is what she said.
Let's get back to the truth of who we are before we go astray.
Before we go astray.
Ask her what the deal is.
What the deal, Daddy?
This is what she'll say.
Oh,
Eye de Prince, titre inédit dévoilé il y a quelques jours, un parmi 11 autres à déguster sans modération, notamment sur France Inter. Tout autant que les ouvrages de nos invités. Merci infiniment Claude Fischler, vous étiez en duplex depuis Limoges et je recommande vivement la lecture de vos travaux et notamment les deux livres cités en début d'émission, L'Omnivore et Les Alimentations Particulières, Mangerons-nous encore ensemble demain, publié chez Odile Jacob. Merci Claude Fischler. Et merci Nora Boisoni, votre livre pertinent et drôle, Steakisme, est à lire aux éditions Nourriture Fu. Je conseille également l'écoute de vos différents podcasts sur le sujet. Merci infiniment Chantal Pelletier, j'étais très heureuse de vous avoir à mes côtés. Nos derniers festins est paru chez Gallimard et je citerai deux autres romans parmi toute votre bibliographie, Bouche à bouche et Tiré sur le caviste, qui est paru en poche au mois d'avril. Merci à vous trois. Pour prolonger ce sujet, mon coup de cœur du jour est à voir sur Netflix. C'est un documentaire en quatre parties intitulé La part du lion, comment la cuisine afro-américaine a transformé l'Amérique. Un road movie culinaire mené par le critique Stephen Satterfield, un voyage qui débute au Bénin sur les traces de ses ancêtres esclaves. Il y est question de mémoire, de transmission, d'épices, de recherche culturelle, de tolérance et de liberté. Ça regardait surtout après avoir mangé. Ce numéro de l'été comme jamais a été préparé aux petits oignons par Juliette Medeviel à la réalisation, Benjamin Troncin à la technique, Margot Page, Anna Massardier et Marie Aubert à la préparation. La programmation musicale est signée Muriel Pérez. Demain, nous changeons totalement d'univers pour nous intéresser aux fans. Pourquoi a-t-on besoin d'idoles dans nos vies?